Radio Kapi. Oh, Kapi.
Premier élément à suivre dans cette édition de ce soir, ce sont les hommages de marque réservés ce samedi à l'hélipad du site Lava, l'une des bases de la MONUSCO à Goma, au casque bleu tué lors d'un crash d'un hélicoptère de la MONUSCO dans la zone des combats de Tchanzo, territoire des Rutshuru, le mardi 29 mars. Nous voyons toujours dans ce journal ce qu'ont engendré cette reprise des combats en début de semaine entre les FRDC et le M23 dans la zone de Tchanzo. Les déplacés se comptent par milliers sur le territoire congolais, tout comme en Ouganda. Docteur Olive Abambula, président de AFEMOMA, association des femmes médecins œuvrant au Maniema, intervient comme invité en fin de cette édition pour parler de l'hygiène menstruelle, les conséquences des avortements clandestins et d'autres actes pour le bien-être des femmes. Gardez l'écoute pour en savoir davantage, fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Yvan Lutumba. C'est dans une cérémonie pleine d'émotions que la MONUSCO a rendu les derniers hommages à ces 8 casques bleus qui ont perdu la vie mardi dernier lors du crash de leur hélicoptère dans la zone des combats de Tchanzo dans le Rutshuru. Cette cérémonie a eu lieu ce samedi à Goma au Nord Kivu. Étaient présents le sous-secrétaire de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, les responsables de la MONUSCO, les membres du gouvernement national et provincial ainsi que les ambassadeurs des pays d'origine de ces casques bleus. Revenons sur cette émouvante cérémonie dans ce reportage de Rosalie Zawadi.
Asif, Faizan, Mohamed, Sami, Avilda.
La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, citant les noms de ces hommes courageux qui ont accompli leur devoir avec honneur et dignité jusqu'à la fin de leur vie. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, a présenté les condoléances du président de la République, Félix Tshisekedi, et salué la mémoire de ces soldats de la paix.
Célébrons donc leur courage, leur bravoure, leur don de soi, leur dévouement et surtout leur abnégation. Eux qui ont choisi de servir de nobles idéaux de la paix sous la bannière des Nations Unies, eux qui ont choisi d'exposer leur vie loin de leur famille afin que le monde, que le Congo vive la paix et en paix. Aux côtés des FRDC, ils ont travaillé en tant qu'acteurs déterminés à apporter leur contribution à cette paix.
L'ambassadeur de la Fédération des Russies en RDC a regretté la perte du soldat russe qui servait sous les drapeaux de l'ONU au sein de la MONUSCO. Alexis Sentebov a indiqué que cette douloureuse perte ne va pas affecter l'engagement de son pays à soutenir les efforts de la MONUSCO.
La Russie soutient sans réserve les activités des casques bleus dans la République. Nous pensons que la réussite de la lutte contre les insurgés passe par une intensification de la coordination entre la MONUSCO et les FARDC.
Tous les officiels se sont mis debout pour honorer ces casques bleus. Leurs dépouilles ont été rapatriées dans leurs pays respectifs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
À l'occasion de cette cérémonie d'hommage, la représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies en RDC a partagé sa douleur à la suite de la perte de ses valeureux casques bleus. Madame Bintou Keïta promet qu'en leur mémoire, les Nations Unies vont redoubler d'efforts dans leur engagement pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Elle ajoute qu'une enquête des Nations Unies est en cours pour établir les circonstances de leur mort pour que la justice soit faite. Ces propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi.
Au moment où nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils, y compris femmes et enfants, tombés sous le feu des armes qui continuent, hélas, de retentir à l'est du Congo. Nous en appelons donc à tous les acteurs pour que cette insécurité qui perdure à l'est du pays prenne fin afin que les enfants, les jeunes et les moins jeunes, retrouvent leur terre et leur foyer et prospèrent dans une nation où la paix et la stabilité règnent. Tel est en essence l'objectif de la présence des Nations Unies au Congo. Contribuer à la stabilisation de l'est du pays tout en assurant la protection des civils. La mémoire collective à l'endroit de nos casques bleus exige notre détermination à poursuivre notre mandat malgré les dangers et les menaces. C'est notre devoir et c'est notre devoir de mémoire à leur égard. Il est impératif que les circonstances de la mort tragique de nos valeureux collègues soit établie et que justice soit faite. Raison pour laquelle une enquête des Nations Unies est déjà en cours.
Et au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi, le gouvernement de la RDC a présenté ses condoléances à la grande famille des Nations Unies, au gouvernement concerné et aux familles de ces 8 casques bleus décédés mardi à la suite de l'attaque du M23. Dans le même registre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a annoncé que le commandement du secteur opérationnel Nord Kivu a été relevé. Selon Gilbert Kabanda, une défaillance a été constatée au niveau de ce commandement à la suite de l'offensive de M23 contre les positions des FRDC. Nous parlons toujours de cette situation. Dans une déclaration datée du 1er avril, le M23 dit décréter un cessez-le-feu unilatéral sur les lignes de front du groupement Djomba dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est après des violents combats qui ont opposé l'armée régulière à ce groupe rebelle en début de semaine, combats qui ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Des milliers de civils ont également fui leurs habitations pour se mettre à l'abri des combats. Jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas encore réagi à cette déclaration. Comme conséquence de ces affrontements, en début de semaine entre les FRDC et le M23 dans la zone de Tianzou, des milliers de Congolais ont fui la contrée. Certains se sont déplacés vers les territoires voisins, d'autres ont traversé la frontière. Près de 10 000 réfugiés congolais ont été ainsi assistés en Ouganda par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR en collaboration avec le gouvernement ougandais et les partenaires humanitaires. Ces réfugiés installés dans le district de Kisoro, dans le sud-ouest du pays, selon un communiqué du HCR. D'autres détails avec vous, Pierrot.
Dans ce communiqué du 1er avril courant, le HCR indique que des milliers d'enfants, des femmes et d'hommes sont arrivés du territoire de Rutshuru en RDC à environ 8 km du poste frontalier de Bunagana dans le district de Kisoro en Ouganda. Ces personnes sont arrivées en Ouganda le 28 et le 29 mars pendant que des tirs d'artillerie et des coups de feu se faisaient encore entendre de l'autre côté de la frontière. 6 personnes blessées par balles ont été évacuées pour être soignées. Le HCR et le bureau du premier ministre ougandais qui gèrent plusieurs centres de transit pour demandeurs d'asile le long de la frontière congolaise répondent à l'urgence en coordination avec les autorités locales et nos partenaires, précise le communiqué du HCR qui a déjà relocalisé quelques 2350 demandeurs d'asile dans le centre de transit voisin de Nyakabandé. Selon cette agence des Nations Unies, l'Ouganda a fermé la frontière de Bunagana aux échanges commerciaux mais autorise heureusement les demandeurs d'asile à entrer dans le pays, parmi lesquels de nombreux enfants non accompagnés, des personnes âgées et des personnes en fauteuil roulant parmi ce qui fuit la violence. Par ailleurs, le HCR indique dans son communiqué que depuis le début de l'année, le HCR n'a reçu que 9% de 343 millions de dollars nécessaires pour financer ses opérations en Ouganda, un pays qui accueille plus de réfugiés que tout autre pays d'Afrique.
Toujours dans la partie est du pays, plusieurs barrières illégales où des populations sont tracassées quotidiennement signalées sur plusieurs routes des territoires de Beni et Lubero. Cette alerte est contenue dans une déclaration rendue publique jeudi dernier par le club Maïa Ruindi, une structure de défense des droits de l'homme. La déclaration est adressée aux autorités et représentants du peuple. Explication de Grévis Saloum.
D'après cette déclaration du club Maïa Ruindi, à ses postes barrières, des frais de passage sont prélevés indûment auprès des usagers, la plupart du temps par des militaires. Maître Kambale Maïa Ruindi Vivien, responsable de cette structure, révèle que ce travail de monitoring a été élaboré suite à des cris de détresse des usagers des routes nationales et celles des dessertes agricoles. Ainsi, ils appellent les autorités à prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre un terme à cette situation qui paupérise la population déjà victime des affres de la guerre. Ici les témoignages des conducteurs mototaxi fréquentant différents tronçons routiers dans les territoires de Beni et Lubero.
La tracasserie a vraiment battu les records parce qu'à l'intervalle de 10 km, on peut facilement croiser 2 à 3 barrières. Ce sont généralement les militaires et policiers. Si tu n'es pas fort, tu peux facilement dépasser environ 4000 francs. Que les autorités nous aident vraiment pour que ça finisse.
Contactez le porte-parole des opérations Sokola 1 en s'assurant contre le mode opératoire de certaines organisations qui élaborent des rapports sans s'en référer aux autorités militaires. Le capitaine Anthony Malouchai appelle ces organisations à avoir cette culture d'alerter les autorités afin de leur permettre de faire le suivi sur terrain puis de procéder aux sanctions de ceux qui sont indexés si c'est le cas. Boutebo, Grévis Saloumou, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, trouble à la prison centrale de Kindu hier vendredi 1er avril où les détenus manifestaient pour réclamer l'évacuation de l'un des leurs qui est gravement malade. La même situation a été enregistrée à la prison centrale de Kasongo après la mort d'un détenu faute des soins médicaux. La société civile demande aux autorités d'assurer la prise en charge alimentaire et médicale des prisonniers pour éviter ces genres de troubles. Florence Kizalunga, reportage.
Cette vive tension est survenue ce vendredi avant midi dans la prison centrale de Kindu. Une tension qui a poussé les policiers commis à la garde de la prison à tirer plusieurs coups de balles de sommation afin de calmer les prisonniers. Ensuite, s'en est suivi un jet de pierres entre les prisonniers et les forces de l'ordre. Les prisonniers n'ont pas apprécié le fait que l'un de leurs, qui souffre gravement, ne soit évacué pour suivre des soins appropriés dans un hôpital. Une situation similaire s'était produite dans la semaine dans la prison de Kasongo. Maître Saloum Loutipa, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile, revient sur ces événements.
À la base de cette tentative, c'est la mort de l'un de leurs la nuit du 30 au 31 mars. Mais nous avons pu constater à l'intérieur de la prison deux blessés parmi les prisonniers. Il est pourtant aussi vrai que la plupart des pensionnés présentent des signes qui vont vers la malnutrition. C'est une preuve ordinaire qui ne bénéficie presque pas régulièrement de leur repas ordinaire. Mais ce sont des citoyens, ils ont droit à la vie.
Notons qu'à la suite de ces événements, le gouverneur intérimaire a fait une descente à la prison de Kindu et ordonné l'évacuation du prisonnier malade. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Un mot de la santé clôture vendredi au centre médical Diama Lubumbashi de la campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite. 18 enfants ayant des malformations cardiaques congénitales ont été opérés pendant près de 2 semaines par les membres de la fondation William Novik Cardiac Alliance spécialisée dans ce genre d'opération. Un motif de satisfaction pour les parents qui disent retrouver l'espoir de voir leurs enfants vivre comme les autres. Jean Gandou pour plus de détails.
Sur les 25 enfants prévus au départ pour être opérés, c'est finalement 18 qui ont été reçus. D'après l'équipe médicale, les enfants opérés sont ceux qui avaient moins de chances de survivre dans les 3 prochains mois. Voilà pourquoi ils ont été prioritaires. Tous sont bien portants, comme l'atteste le directeur général du centre médical Diamant, Karim Tadjin.
Au cours de ces 2 semaines, on a pu faire la chirurgie cardiaque pédiatrique sur 18 enfants, dont 16 enfants pour lesquels on a fait la chirurgie à cœur ouvert. Des chirurgiens ont opéré sur 2 patients de Kinshasa, 4 de Lualaba, 1 de Tanganyika et le reste du Haut-Katanga. 100% de réussite jusqu'à maintenant.
Sourire aux lèvres, les parents ainsi que leurs enfants s'apprêtent à rejoindre leurs familles respectives. Pour cette dame venue spécialement de Kinshasa, c'était une grande épreuve, mais au finish, après l'opération, sa fille, âgée à peine de 7 mois, se porte bien.
Je n'ai jamais entendu un enfant souffrir de cœur. Elle va très 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 bien. Elle ne transpire plus, elle n'est plus fatiguée, mais maintenant là, ça va.
Notons que les autres enfants qui restent seront suivis par une cardiologue pédiatre de la fondation CM Diamant qui a subventionné cette campagne. Ils recevront des produits jusqu'à l'organisation de la 2e campagne qui interviendra au mois de septembre prochain. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis cette autre nouvelle, dans la province de la Lomami, on parle de la fermeture jeudi de la radio Lucema émettant dans la cité de Ngandajika, territoire du même nom, à plus de 90 km de Mbujimayi. Le ministère provincial de la communication, jeunesse, sport et loisirs, qui a pris cette décision, reproche à ce média local quelques faits dont notamment le non-respect des autorités provinciales et locales ainsi que l'incitation de la population à la révolte populaire. L'Union nationale de la presse du Congo, section de Lomami, demande aux autorités de revenir sur leur décision afin de permettre à la population de bénéficier de leur droit à l'information. Des explications avec Esther Dalafina.
Dans la lettre d'information donc au pays parvenue à notre radio, le ministre provincial de la communication ad intérim suspend la radio Lucema émettant dans la cité de Ngandajika jusqu'à nouvel ordre. Il est reproché à ce média local le non-respect des autorités provinciales et locales, le non-respect de l'éthique et de la déontologie journalistique dans l'animation des émissions ainsi que l'incitation de la population à la révolte populaire. À cet effet, le ministre demande aux responsables de ce média de transmettre les dossiers de la radio ainsi que la liste et les dossiers physiques des journalistes qui travaillent à cette chaîne de radio. Le directeur de programme est resté injoignable. Cependant, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Lomami, demande aux autorités provinciales de revenir sur leur décision. Johnny Kasongo.
Cette décision n'est pas la bienvenue. La procédure est biaisée. La décision devrait venir du CESAC qui est chargés de la censure des émissions radiophoniques et non pas des politiques ou des faits encore qui sont politiques. Nous invitons le ministre de revenir, bien sûr, à sa décision pour autoriser la radio Lucema à fonctionner.
Signalons que c'est le deuxième média suspendu dans la province de Lomami depuis le début de cette année. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis la récente déclaration du président américain Joe Biden détaillant les mesures d'accueil des réfugiés ukrainiens ainsi que l'octroi du statut de protection temporaire, Wilfried Teba se demande si ce traitement aurait été similaire pour des personnes de couleur. La mesure n'a pas été étendue à d'autres pays en conflit. Le ministère de la Sécurité intérieure a seulement déclaré continuer de surveiller les conditions dans les différents pays. Le jeune homme camerounais de 27 ans a adressé une lettre au sénateur de l'Ohio, Rob Portman, pour des demander l'inclusion du Cameroun au statut de protection temporaire. Contrairement aux autres demandeurs d'asile, les Ukrainiens ne sont pas soumis aux restrictions visant à empêcher la propagation du Covid-19. Depuis l'annonce du président, ils sont des centaines à attendre de passer la frontière dans la ville limitrophe de Tijuana.
L'invité.
Notre invité, c'est Dr Olive Abamboula, président de l'Association des femmes des médecins œuvrant au Maniema à Fémoma, qui nous parle du bilan des activités que son association a pu réaliser durant le mois dédié aux droits de la femme. Plus de 1000 femmes et jeunes filles ont été sensibilisées par cette association sur l'hygiène menstruelle, les conséquences des avortements clandestins, les complications des infections sexuellement transmissibles et l'hygiène bucco-dentaire. Dr Olive Abamboula s'entretient avec Florence Kizalunga.
Bonjour, Dr Olive Abamboula.
Bonjour.
Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, touche à sa fin. Qu'est-ce que la population peut connaître des activités que votre association a menées durant cette période?
Effectivement, l'association des femmes médecins œuvrant au Maniema, la FEMOMA, nous venons de clôturer le mois de mars et le mois dédié à la femme. C'était un mois riche en événements dans notre association, car nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités, et parmi lesquelles il y avait la sensibilisation des jeunes filles et mères dans des différentes écoles et à l'église. Il y avait même un match qui était organisé pour les femmes médecins œuvrant au Maniema contre les épouses de médecins. Donc il y a eu au moins 1000 élèves qui étaient sensibilisés concernant ce sujet-là. Et nous étions appuyés par l'INFPA, qui est notre partenaire, avec les bandes hygiéniques. Nous avons distribué à toutes les filles pour leur préparation. Et nous étions à l'église méthodiste, au centre Lina, où nous avons sensibilisé plus de 100 femmes sur les cancers gynécologiques. Alors, il fallait qu'on sensibilise les jeunes filles, parce que l'égalité des sexes, ce ne dit pas seulement la parité, mais c'est l'égalité d'échange entre l'homme et la femme. La femme doit être en bonne santé pour réaliser de grandes réalisations.
Nous venons de suivre les statistiques. Votre association s'est fixée combien de personnes à sensibiliser? Est-ce que vous avez atteint l'objectif?
Nous nous sommes dit qu'il fallait sensibiliser au moins 1000 femmes ou jeunes filles. Mais nous sommes allés à 1150. Et la demande est encore grande. On n'a pas encore fini. Donc on pourra encore continuer à sensibiliser les jeunes filles au niveau de notre province et dans des différentes écoles.
En les sensibilisant, bien sûr, quel a été l'engagement de ces jeunes filles et mamans?
L'impression qu'on avait eue, les jeunes filles étaient vraiment très très contentes, étant donné que beaucoup d'entre elles ne connaissaient même pas leur cycle menstruel. Et nous leur avons expliqué à quel moment la femme est susceptible d'avoir une grossesse, comment calculer leur cycle menstruel, comment se comporter pendant les moments des règles, quelle est la place de la femme dans la société. De l'autre côté, les mamans qui étaient au centre Lina étaient aussi très 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 heureuses, parce qu'elles ne savaient pas que le cancer existait. Pour elles, c'était vraiment un moment. Et elles appelaient ça comme étant Kilondatumbu, tout ça. Et pourtant, les cancers existaient. Elles étaient contentes de savoir quelles sont les causes des cancers, comment il faut éviter et qu'est-ce qu'elles doivent faire lorsque nous allons encore lancer la séance de sensibilisation et de dépistage des cancers prochainement.
Après cette sensibilisation, vous vous attendez à quoi?
Pour les filles, nous attendons que les filles puissent vraiment se mettre à étudier, parce que beaucoup d'entre elles arrêtent leurs études à cause des grossesses. Et de deux, il y a d'autres qui vont se faire avorter, et par conséquent, il y a toujours des grands dégâts. Et là, nous savons que beaucoup de filles vont maintenant bien se comporter, et les risques des avortements, des infections ne seront plus là.
Vous êtes dit domaine, docteur. Avant cette sensibilisation, est-ce que vous enregistrez des plaintes en ce sens dans vos différentes structures sanitaires?
Effectivement, il y avait beaucoup de problèmes.
Concernant d'abord les problèmes des cycles menstruels, beaucoup de filles venaient consulter pour des troubles de cycle. Elles ne comprenaient pas et pourtant il n'y avait rien comme problème. C'était juste l'ignorance et les manques de communication. Ça c'est un. De deux, il y a d'autres qui venaient pour des avortements, mais au début elles étaient en train de cacher. Alors il fallait qu'on puisse leur parler aussi des conséquences de ces avortements. Pour les mamans, nous avons constaté que beaucoup de mères viennent nous consulter en retard lorsque le cancer a déjà pris un stade très avancé. Alors il fallait leur préparer quels sont les signes d'appel qui peuvent les orienter pour aller consulter. C'est un des cas que nous avons vraiment eu pendant notre moment de consultation.
Vous avez clôturé vos activités. Est-ce que vous pouvez avoir un message particulier à adresser à la population?
Merci beaucoup. Nous clôturons le mois de la femme aujourd'hui. Nous voulons dire que souvent la femme est stigmatisée, la femme est considérée comme étant un être faible. Ce n'est pas le cas. Être une femme ne dit pas qu'on est faible. Mais une femme, c'est celle qui a la possibilité de faire de grandes choses, d'occuper de grands postes de responsabilité comme les hommes. Donc nous devons vraiment sensibiliser nos parents à mettre beaucoup d'argent pour faire étudier leurs filles. Pour souvent, les parents disent que chez la fille, je n'aurai rien, je dois vraiment soutenir l'homme parce que c'est l'homme qui peut faire quelque chose. Ce n'est pas le cas. Donnons la chance aussi à nos jeunes filles de progresser dans les études pour qu'un jour, qu'elles puissent aussi occuper de grandes responsabilités.
Docteur Olivier Mamboula, merci.
Merci beaucoup.
Voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Pierrot et la Mézine et la Lousitou. Billy Ivan Lutumba était à la présentation et Willem Lungamba assurait la prise de son et la mise en onde. Merci pour votre attention soutenue.